Chapitre 59. Chelsea, 1994. Je sais que présenté ainsi, ça a l'air désastreux, évidemment. Tout devient plus compliqué quand on a quatre cadavres sur les bras. Mais ce que personne ne voit, c'est que sans moi, on y serait peut-être encore, bordel. Des quadragénaires squelettiques, des vies gâchées, ou bien on serait mort. Oui, n'oublions pas cette possibilité. Certes, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu, mais on s'en est sorti. On s'en est sorti. Si mes souvenirs sont bons, personne n'avait de meilleure idée, si. Personne d'autre ne vous laisse mouiller. C'est facile de critiquer, mais prendre la situation en main, c'est une autre paire de manches. Je devais non seulement trouver une solution pour les quatre cadavres, mais aussi m'occuper d'un bébé, des deux filles, et surtout de Finn, qui nageait en plein délire. Comme il n'était pas fiable, je l'ai enfermé dans sa chambre. Oui, je sais, mais il fallait que je me pose pour réfléchir. Finn geignait à l'étage, et les filles voulaient le rejoindre. « Non, vous restez ici, j'ai besoin de vous. Ne bougez pas. » La priorité, c'était Birdie. C'était étrange de la voir sur le sol, si petite et brisée, cette sorcière qui avait régenté nos vies pendant si longtemps. Elle portait encore le haut de forme que Clemency lui avait confectionné pour son anniversaire et le collier que David lui avait offert. Ses longs cheveux étaient attachés en chignon. L'un de ses yeux était rouge vif. Ses iris bleu pâle fixaient le mur. Ses pieds étaient nus et osseux, ses ongles longs et jaunâtres. J'ai détaché le bijou de son cou et l'ai glissé dans ma poche. Clemency pleurait.
« C'est tellement triste. C'est horrible. Elle a des parents quelque part et elle est morte. »«
Ce n'est pas triste du tout, » ai-je répondu sèchement. « Elle méritait de mourir. » Clemency m'a aidé à la porter au dernier étage, puis à la monter sur le toit. Elle était très légère. Près de l'endroit où un jour j'avais tenu la main de Finn, il y avait une sorte de tranchée pleine de feuilles mortes qui menait à la gouttière. On a entouré son corps de serviettes et de draps et on l'a poussé là-dedans. Puis on a recouvert le cadavre de feuilles mortes et de vieilles planches de bois qui traînaient. Ensuite, je suis allé dans la cuisine. J'ai examiné les trois cadavres sans émotion. Je ne pouvais pas me permettre de laisser mon cerveau prendre la mesure de ce qui s'était passé. J'avais tué mes propres parents, ma magnifique et stupide mère et mon pauvre père brisé. Il ne fallait pas que je pense au fait que par ma faute, ma mère ne plongerait plus jamais sa main dans mes cheveux et ne m'appellerait plus jamais son beau garçon, que je n'irais plus jamais au club avec mon père pour boire une limonade en silence, que je n'aurais pas de visite à qui rendre visite à Noël, ni de grands-parents pour les éventuels enfants que j'aurais peut-être, que je n'aurais jamais à m'occuper d'eux dans leurs vieux jours et que personne ne s'occuperait de moi non plus. J'étais orphelin. Orphelin et meurtrier malgré moi. J'ai réussi à ne pas paniquer. Je ne me suis pas laissé submerger par mes émotions, et j'ai observé les trois silhouettes étendues sur le sol de la cuisine. Voilà ce que j'ai pensé à la vue de cette scène. On dirait les membres d'une secte avec leur tunique. N'importe qui entrerait dans cette pièce maintenant conclurait à un suicide. La suite m'est apparue comme une évidence. Il fallait que je maquille mon crime involontaire en suicide collectif. Nous avons arrangé la table pour qu'elle ressemble moins à une fête d'anniversaire et fasse penser à un dernier repas. Nous avons débarrassé nos assiettes, fait la vaisselle et jeté les restes de nourriture. Nous avons déplacé les corps pour qu'ils aient tous la même position. J'ai pressé leurs doigts sur les flacons vides avant de les poser sur la table, un à côté de chaque verre, pour donner l'impression qu'ils les avaient bu en même temps. On ne se parlait pas. Il régnait sur les lieux un silence sacré. J'ai déposé un baiser sur la joue glacée de ma mère, un autre sur le front de mon père. Puis je me suis tourné vers David. Il gisait là, l'homme qui, comme l'avait prédit Finn des mois auparavant, avait détruit ma vie. L'homme qui nous avait ruinés, qui nous avait frappés, qui nous avait privés de nourriture et de liberté, qui avait confisqué nos passeports, qui avait fécondé ma mère, puis ma sœur, qui avait voulu s'approprier notre maison. J'avais liquidé cet homme abject et j'en étais fier. Mais je ressentais également un immense dégoût pour lui.
Regarde-toi, pauvre type. Regarde-toi et vois quel gros naze tu es.
J'avais envie de lui écraser la tête à coups de talon jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une bouillie sanguinolente, mais j'ai résisté à cette pulsion et suis remonté dans la chambre qu'il partageait avec Birdie. Nous avons fouillé tous les cartons. Dans l'un d'eux, nous avons trouvé les sacs hideux que Birdie voulait vendre à Camden et nous les avons remplis à ras-bord. Nous avons divisé en 4 parts les 7 000 livres collectés. Nous sommes tombés sur la boîte à bijoux de ma mère, les boutons de manchette en or de mon père, des colliers en platine, une caisse pleine de bouteilles de whisky. Nous les avons vidés dans l'évier et déposés à côté de la bouteille de champagne, près de la porte d'entrée. Nous avons pris les bijoux, puis nous avons défait et empilé les cartons. Une fois la maison vidée de tout ce qui aurait pu contredire l'idée qu'une secte vivait là, nous sommes sortis dans la rue et avons marché jusqu'au quai de la Tamise. Il était très tard à ce moment-là, peut-être 3 heures du matin. Quelques voitures sont passées à côté de nous, mais aucune n'a ralenti ni semblé nous remarquer. Nous nous sommes arrêtés à l'endroit précis où nous nous étions battus avec Finn, où j'avais vu des visages apparaître dans l'eau trouble. J'étais assez calme pour apprécier mes premiers mouvements de liberté en 2 ans. Après avoir jeté les bouteilles vides, les sous-vêtements en soie, les flacons de parfum et les robes de soirée au fond du fleuve, dans des sacs lestés de pierre, nous sommes restés immobiles quelques minutes. J'entendais nos respirations à chacun. Je voyais la beauté et le calme de ce moment éclipser un instant l'horreur de ce que nous avions vécu. L'air qui nous parvenait après avoir caressé la surface noire et brillante de la Tamise était chargé d'énergie vitale, de force. Il avait l'odeur de tout ce qui nous avait manqué depuis que David Thompson avait débarqué chez nous, depuis que lui et sa famille s'étaient installés dans la maison. « Inspirez !» recommandai-je aux filles. « Vous sentez cette odeur ? C'est celle de la victoire. On a réussi !» Clemency s'est mise à pleurer en silence. Elle reniflait et s'essuyait le nez du revers de la main. Mais je savais que ma sœur prenait la mesure de ce que nous avions accompli. Si tu n'avais pas été là, Serenity, elle n'aurait pas eu cette force. Elle aurait pleuré sa pauvre maman, elle se serait mouchée dans sa main comme Clemency. Mais grâce à toi, elle savait que nous étions plus que les enfants chéris de 2 parents. Elle avait un visage déterminé et gardait la tête haute. J'étais fier d'elle. « Ça va aller !» lui glissai-je. « Tu sais ça, n'est-ce pas ?» Elle a hoché la tête. On est resté comme ça 1 ou 2 minutes de plus, jusqu'à ce que les lumières d'un remorqueur nous éclairent. Alors on s'est éloigné de la berge et on s'est précipité de l'autre côté de la route, vers la maison. À ce moment-là, Clemency a commencé à courir. Elle ne portait pas de chaussures, seulement des chaussettes. Elle avait de grands pieds, et les chaussures de ma mère que nous avions trouvées étaient trop petites pour elle, tandis que celles de son père étaient trop grandes. Je les regardais courir. Pendant quelques secondes, je ne savais pas quoi faire. « Rentre à la maison !» ordonnai-je à ma sœur. « Rentre tout de suite !» J'ai tourné les talons et me suis lancé à la poursuite de Clemency. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en faisant cela, je risquais d'attirer l'attention. Il y avait quelques passants. C'était un jeudi soir, et des jeunes gens descendaient du bus de nuit à l'arrêt de King's Road pour rentrer chez eux. Comment aurais-je pu expliquer, dans mon accoutrement ridicule, que je poursuivais une jeune fille terrifiée, vêtue de la même tunique noire et sans chaussures? Je me suis arrêté au coin de Beaufort Street. Mon cœur, qui n'avait plus l'habitude des courses soutenues, tambourinait dans ma cage thoracique avec tant de force que j'en avais la nausée. Plié en deux, j'ai écouté l'air entrer et sortir de mon corps comme un animal étranglé. Enfin, j'ai fait volte-face et suis rentré à la maison. Ma sœur m'attendait dans le vestibule. Tu étais sur ses genoux. Elle te donnait le sein.
« Elle est où ?»«
Partie !» j'ai répondu, encore essoufflé. « Elle est partie !»